chemins oubliés. Je joue ma vie sur quatre planches. Le jour, la nuit et le dimanche. Je joue plus et mieux que personne pour ne pas voir venir l'automne qui un jour va m'emporter.
C'était Magali Noël qui nous chantait l'ortie. Alors, je vous propose maintenant un autre article tiré d'une autre revue dont nous avons déjà parlé quelquefois dans notre revue des revues Planète Femmes. C'est la revue Croissance, le monde en développement. Et dans le numéro du mois de mars, qui a pour titre « Inde, le défi hindou », eh bien, c'est pas de l'Inde que j'ai choisi de vous parler, mais plutôt de l'Afrique. Dans la rubrique « Idées de croissance, un monde en développement », eh bien, nous avons un article, une interview plus précisément, réalisée par Laurette Nobécourt, interview de Axelle Kabou. Axelle Kabou, qui est une femme écrivaine d'origine camerounaise, qui a été tour à tour coordinatrice de projets de développement et conseillère technique au secrétariat de la présidence de la Confédération de la Sénégambie. Alors, pourquoi lui demander son avis? C'est qu'entre autres, elle a écrit un livre récemment qui a pour titre « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Évidemment, tout un programme. Ce livre est publié aux éditions de l'Harmattan. Alors, l'afro-pessimisme, puisque semble-t-il ce soit à l'ordre du jour, a-t-il de bons côtés? Telle est la question que commence par poser Laurette Nobécourt. Cette relative désaffection de l'Occident pour le continent noir, s'il inquiète certains, offre également la possibilité d'une réflexion en profondeur. Et c'est ce que fait Axelle Kabou dans son dernier livre, je rappelle le titre, « Et si l'Afrique refusait le développement ?». Elle dégage dans ce livre de nouvelles perspectives pour l'Afrique, pourvu que celle-ci se démarque de l'idéologie du développement et finisse par prendre son destin en main. Telle est l'idée fondamentale de son livre. Alors voici un extrait des quelques questions que Laurette Nobécourt a posées à Axelle Kabou. Vous vous interrogez sur le développement, mais quelle définition en donnez-vous ? Axelle Kabou. Il n'y a pas une définition du développement. C'est un mot éminemment polysémique. Certains prétendent que c'est un concept lié à l'histoire de l'Occident qui renvoie au processus connu de révolution industrielle. Le développement ne peut être pour l'Afrique autre chose qu'une série d'actions découlant d'une stratégie destinée à amener les populations à satisfaire leurs besoins fondamentaux dans le cadre d'un projet de civilisation bien déterminé. Que sont pour vous ces besoins fondamentaux ? Eh bien, ce que tout le monde dit d'habitude, à savoir se nourrir, se loger, s'habiller. J'ai une conception très utilisatrice au sens étymologique du terme développement. Plutôt que de parler de développement, je préfère l'expression mieux-être. Je crois d'ailleurs qu'il y a une aspiration universelle au mieux-être. Le développement n'est donc pas à vos yeux strictement économique. Les échanges ne se font pas uniquement à partir d'une base économique. L'économie n'est que l'expression de la vitalité ou du déclin d'une culture. Il fut un temps où, objectivement, l'Afrique avait les moyens financiers de s'insérer dans le système des échanges, de se réapproprier une logique de domination. Or, elle a continué d'occuper le dernier rang. Est-ce un effet pervers des stratégies des acteurs ou souhaitait-elle cette place ? La science et la technique sont-elles indispensables au développement, selon vous ? Réponse d'Axel Cabou. En Afrique, oui. Parce qu'elles permettent, dans une certaine mesure, de suppléer à l'insuffisance de la capacité de production humaine proprement dite, au fossé qui existe entre le nombre des hommes et la production dont on devrait disposer pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. La science et la technique peuvent être un instrument formidable. C'est une question de degré. Je ne sais si je suis naïve quand je parle d'un retour à la technique. Il faut faire en sorte que l'Afrique ne devienne pas une société techniciste où la technique est l'objet d'un culte. Nous devons revenir à la technique pour produire, avec des cultures modernes, des principes modernes, ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais pour vous, quel est le véritable enjeu du développement pour l'Afrique et pour l'Occident ? Avant de parler d'enjeux, il faut rappeler la situation actuelle de l'Afrique. Elle est marginalisée dans des échanges économiques mondiaux. La dette est paradoxalement son seul mode de connexion à l'environnement mondial. Les bouleversements survenus dans nombre de pays de l'ex-URSS font que l'Est, devenu concurrent de l'Afrique, compromet à terme une reconnexion. La disparition de l'opposition Est-Ouest a changé beaucoup de choses. Nous occupions la place d'une puissance factice du fait de la guerre froide. Désormais, nous devons valoriser nos potentiels. Il y a un courant de pensée afro-optimiste qui imagine que l'on arrivera bien à s'insérer dans les échanges internationaux, ce que démentent les faits. Le véritable afro-optimiste consiste à réfléchir en termes de capacité à construire un projet de civilisation qui ne soit pas celui du rattrapage de l'Occident. Pour une fois, les conditions objectives d'un projet de civilisation sont là, mais ce qui est important, c'est leur utilisation. Or, il y a en Afrique une véritable explosion d'ambition à la consommation. C'est l'un des écueils auxquels nous nous heurtons dans la recherche de notre développement. Vous ne souhaitez donc pas que la marche en avant de l'Afrique soit une copie des sociétés dites développées ? Ainsi continue Axel Cabou à répondre. Quand bien même nous le souhaiterions, nous ne le pourrions pas. Nous n'en avons ni les moyens, ni la démarche intellectuelle, ni les instruments. Il n'y a pas eu de développement mimétique en Afrique, mais des réinvestissements. Une réappropriation peut permettre un projet de civilisation réellement africain. Et quand je dis africain, je parle de l'Afrique noire, car l'Afrique du Nord et l'Afrique australe s'en sortent mieux. Quels sont les moyens spécifiques à l'Afrique pour son développement ? Les moyens sont à découvrir. C'est un peu comme si l'Afrique commençait à réfléchir sur elle-même. On sort de la logique de l'extraversion. Aujourd'hui, les intellectuels cherchent des repères dans les manifestations culturelles et sociales de leur pays. Il existe des aspirations réelles chez les Africains. Elles détermineront les moyens. Ce sont moins les moyens qui provoqueront les changements que les aspirations au changement qui engendreront les moyens. Les mouvements de la démocratisation actuelle sont factices, mais ils sont intéressants comme instrument en potentiel de consultation des Africains. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi les Africains sont prêts à se lever le matin. Il n'est pas sûr qu'ils le soient pour aller gagner 2 francs à l'usine. Il n'appartient pas à l'élite de définir cela, mais d'élaborer des instruments qui permettent de systématiser les pratiques pour comprendre ce qu'elles recèlent de charges dynamiques culturelles. Il faudra tenir compte des contradictions fondamentales entre, par exemple, le nombre d'heures de travail que les Africains sont prêts à effectuer et leurs envies de consommation. Quelles sont, à votre avis, les conditions de l'émergence d'une Afrique décomplexée ? Axel Cabou, je crois que notre chance est cette possibilité de décrypter les luttes qui se déroulent ici, d'en comprendre les formes. L'Afrique de demain ne sera pas le résultat d'un débat entre intellectuels. Lorsque l'on me dit « Axel Cabou, qu'avez-vous à proposer ?» Cela me fait doucement rigoler. Il y a une mode de la prospective depuis 10 ans. On constate que peu à peu, les moyens scientifiques de se mieux connaître se mettent en place. C'est une révolution dans la manière de s'aborder. des études pullulent, même si elles proviennent d'institutions internationales qui sont intéressées par cet exercice à des fins pas toujours très honorables. Mais enfin, il y a une prévision possible. Certains économistes africains prennent en exemple la Corée du Sud à ce sujet, pays qui a eu la capacité de prévoir, de se mettre en marge, de s'objectiver, de se projeter dans l'avenir. C'est novateur en Afrique, cette introduction de la prospective pour structurer le présent. Dans votre livre « Et si l'Afrique refusait le développement », vous écrivez « L'avènement d'un véritable esprit critique en Afrique noire passe par le meurtre de vendredi, symbole du bon sauvage et du complexe de l'indépendance du primitif à l'égard de l'homme blanc. » Comment réalisez-vous ce que vous appelez le meurtre de vendredi ? Le meurtre de vendredi est difficilement réalisable et je m'en suis rendu compte particulièrement en faisant des conférences. La génération des 20-25 ans a complètement intériorisé les mensonges idéologiques qu'ont produit les sociétés néocolonialistes pour continuer de vivre. À quel mensonge pensez-vous ? Par exemple, qu'en Afrique, l'homme a perdu son identité africaine, ce qui est complètement faux. Les moyens de production le démentent. On peut penser aussi au fameux complot occidental, par exemple, avec la gesticulation des militaires français au Bénin lors de la crise togolaise. On fait croire à un complot là où il n'y a que des acteurs et des stratégies d'acteurs. Ce qui me paraît incroyable, c'est que les représentations se sécularisent alors que les systèmes qui les portaient ont disparu. Je crois que les nouvelles élites africaines doivent comprendre qu'il s'agit là d'un des instruments qui a permis au néocolonialisme de dominer les populations. Le complot a existé, mais il ne faut pas négliger l'utilisation que les États africains en ont tirée. La vision du complot français contre l'État africain, en termes de machiavélisme, est trop réductionniste. Quel est l'intérêt de l'Occident à ce que l'Afrique refuse le développement, selon vous, Axel Kaboum ? Eh bien, l'intérêt est de moins en moins évident, contrairement à l'époque où il s'agissait d'exporter des esclaves ou lorsque les industries du Nord avaient besoin de matières premières. L'intérêt reviendra quand le marché de l'Europe de l'Est sera saturé, lorsque les sociétés post-industrielles, je préfère cela au terme Occident, auront besoin de nouveaux marchés pour évacuer leurs rebuts et pour recycler leurs déchets. Axel Kaboum, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement aujourd'hui en Afrique ? Pour moi, analyste de contenu, ce que vit l'Afrique aujourd'hui est une situation intéressante parce que c'est l'Afrique des interrogations. On est passé d'un climat intellectuel dominé par des idées reçues à un climat intellectuel dominé par des interrogations. Ce qui est important, ce sont les espaces, les interstices où se glissent les questions. Ce ne sont pas les conférences nationales qui laissent place aux questions. Elles sont plutôt le lieu de redistribution, de renégociation du pouvoir et de l'argent, et non de la démocratie. La démocratie ne se produit pas comme ça. Il y a de réels changements actuellement en Afrique, un nouveau mode de pensée qui vient de l'effondrement du système rentier. Or, il y a une élite qui n'est intéressée que par la reproduction des logiques rentières et qui accapare tout, si bien que l'opinion internationale n'a pas l'impression de changement dans les écoles de pensée africaines. Mais Axel Kaboum, vous-même faites partie de ce mode de pensée. Oui, tout à fait. Je suis contre la reproduction du système. Vous ne me verrez jamais ministre. Voilà, c'était les propos recueillis par Laurette Nobécourt, propos d'Axel Kaboum qui a écrit le livre « Et si l'Afrique refusait le développement ?» C'était une musique composée par Carla Bley et un titre absolument charmant, La fille qui pleurait champagne. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il pleurait lorsqu'elle buvait du champagne, si c'est le coup qui arrive chaque fois Carla Bley lorsqu'elle écoute et écrit ces belles musiques. En tout cas, nous les écoutons toujours avec autant de plaisir. Alors, autre revue, c'est une revue, disons, que nous recevons chaque mois dans nos boîtes aux lettres si nous y sommes abonnés, parce que ce n'est pas un journal que vous trouvez dans les librairies ni dans les kiosques à journaux. C'est le bulletin d'information et de réflexion édité par la Campagne pour la paix en collaboration avec Frauenstelle für Friedensarbeit, qui a pour titre « Horizon Femmes Suisse-Europe ». Alors, le numéro de mars 1993 est particulièrement axé sur l'aide au développement, quel rôle pour l'Europe. Et des accents, entre autres, un dossier qui est écrit par Sylviane Klein. Sylviane Klein qui est aussi la rédactrice en chef du journal Femmes Suisses et dans le dernier numéro de Femmes Suisses où l'on retrouve aussi des articles concernant les femmes et le développement. Entre autres, un article qui a pour titre « Le prix de l'eau » qui est le récit d'une rencontre avec Azibité Akoté, animatrice dans le cadre d'un programme de développement régional dans la région du Sahel. Et qui parle par exemple d'un réseau femmes et développement. Dans l'histoire récente des pays d'Amérique latine, par exemple, les mouvements féministes sont ceux qui ont proposé le plus d'innovations importantes. L'un des meilleurs investissements du tiers-monde pourrait bien être les femmes. Ces deux phrases que l'on pouvait lire récemment dans la presse romande, parce que de temps à autre ils reprennent certaines choses, le rôle actuel des femmes dans le développement était ainsi précisé, non seulement comme bénéficiaire, mais comme actrice indispensable. Pourtant, de l'idée à la réalisation, le chemin est encore long. Et en Afrique, les femmes sont écrasées par les tâches domestiques et participent en plus aux travaux agricoles. Le sort des latino-américaines n'est pas plus enviable. Les projets de développement doivent donc viser à dégager les femmes des corvées villageoises en améliorant les structures et les alléger des tâches familiales par le biais de crèches, afin qu'elles puissent accéder à une meilleure hygiène, éducation, formation professionnelle et technologie. Et c'est dans ce sens qu'évolue aujourd'hui, dans un contexte international, une nouvelle démarche soutenue par le réseau Femmes et Développement. Ce réseau, fondé en 1983, est un espace d'échange, d'information, de formation et d'expertise visant à promouvoir l'intégration des femmes dans le développement. Il est constitué d'experts issus aussi bien du secteur privé que public et des pays du Nord et du Sud. Alors, dans Femmes Suisses de ce mois, vous pouvez, par exemple, être renseigné sur particulièrement le problème de l'eau dans les immenses étendues du Sahel. C'est un article qui est signé Sylviane Klein. Sylviane Klein, je vous le disais, qui écrit aussi dans Horizon Femmes Suisse-Europe un grand article sur quel rôle pour l'Europe dans l'aide au développement. Et en introduction du journal, eh bien, l'information sur ce qui se passe ailleurs qu'à Genève, ailleurs qu'en Suisse. Et c'est une conférence franco-africaine qui a eu lieu au mois de novembre dernier à Paris. Reconnue comme puissant levier de l'essor économique des pays en voie de développement, les femmes étaient au centre des débats lors de la conférence franco-africaine Femmes et Développement. Le gouvernement français a rencontré à cette occasion quelques 80 délégués et déléguées de la société civile des gouvernements d'Afrique et de l'océan Indien. La rencontre avait pour but d'élaborer des orientations communes en faveur des femmes africaines, l'ébauche en quelque sorte d'un nouveau partenariat entre États et société civile. Le texte de la déclaration a conclu sur une demande d'allègement de la dette en faveur des États ayant pris des initiatives significatives pour la promotion de la femme. Et dès janvier 1993, un programme de 20 millions de francs français est mis en œuvre afin que la voix des femmes puisse se faire entendre le plus largement possible. Chaque projet de développement de la coopération française devra viser à les dégager des corvées villageoises grâce à l'amélioration des structures ainsi que des tâches domestiques, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure pour qu'elles accèdent à une meilleure hygiène, éducation, formation professionnelle et technologique. Voilà, je voulais encore vous lire un article sur la santé des femmes, comment aujourd'hui accoucher. C'était un article que je me proposais de vous lire, tiré de la revue hebdomadaire Femina, que vous trouvez sûrement aussi dans votre kiosque à journal. C'était un article de Françoise Ducret qui faisait un petit peu le tour des cliniques où les biologistes défendent la nature et créent des embryons en éprouvette et où, par ailleurs, l'accouchement s'humanise, paraît-il, deux démarches complètement opposées entre science et conscience. Eh bien, ce sera pour une prochaine revue des revues, Planète Femme, dans Remue Ménage, Radio Zone Onde Femme. Pour aujourd'hui, pour finir un peu en musique, où nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, eh bien, je vous propose d'écouter la chanteuse brésilienne Margaret Menezes dans une chanson très bougillante.
Do coração, I know how to dance.
Yes.
Like your black, black, your black, America, black, do black, Brazil.
Yes. Yes. Yes.
Michael, don't try
to stop me.
My woman, don't cry. Everything's gonna be alright. America, black into Brazil, Brazil.
Yes, yes, yes.
Michael, don't cry.
Don't stop me.
My woman, don't cry. Everything's gonna be alright. Right, right.
Yes, yes, yes.
Margaret Menezes dans Remue Ménage Radio Zone 93.8 Onde Femme.
No começo desilusão, mais tarde a dor no coração e depois minha mesma certeza de passar uma noite no assalpão. A sangrar, na quarta vinha a mesma certeza que eu tenho hoje, eu sou falar demais.
Puna, puna, na negro, puna, puna, na negro, amarra, amarra, negro, amarra, amarra, negro, e jaz,
na lama, jaz.
Puna, puna, na negro, puna, puna, na negro,
que vida será que da vida já não se apanha mais? Nunca mais a cegueira, nunca mais a besteira. Vida que vida será que...
Remue-ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. Dans quelques instants.